I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour Mathilde. Merci.
Je vous propose maintenant qu'on se connecte avec notre experte. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement scolaire? Que le haut potentiel? Qu'est-ce qu'on appelle une famille recomposée?
Le cerveau de l'enfant est extrêmement malléable.
C'est un biais culturel.
Ce stress chez les enfants s'exprime souvent par...
Autant de questions auxquelles nous allons essayer de réfléchir avec vous.
Donc, c'est pas toujours clair pour les parents.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne, psychothérapeute de couple et d'ICV. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents dans ce voyage joyeux, mais parfois délicat, difficile de la parentalité. Les parents parfaits n'existent pas. La parentalité est une découverte de l'autre, mais surtout de soi. Une occasion de se confronter à ses propres forces, mais aussi à ses limites et à ses freins. Car les enfants ont avant tout besoin de parents humains. C'est sur ce chemin que je tente de vous accompagner.
On intervient quand ça commence à gêner quelqu'un. La définition du bégaiement, elle serait incomplète si on ne parlait pas du vécu interne de la personne qui bégait.
Aujourd'hui, je vous invite à écouter notre épisode précédent pour découvrir le témoignage de Marine qui nous a parlé du bégaiement de son fils et de comment elle l'accompagne. Dans ce nouvel épisode, place à notre experte Sarah Hervé, avec laquelle je vais revenir sur ce qu'est le bégaiement, comment il se manifeste, les répercussions qu'il peut avoir. Bonjour Sarah Hervé.
Bonjour Mathilde.
Tu es orthophoniste, formée aux thérapies cognitives et comportementales, formatrice. Tu es spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui bégaient, enfants, adolescents et adultes, que tu accompagnes en individuel et en groupe. Tu as également créé de nombreux supports et outils pour aider les enfants et les adultes confrontés à cette difficulté, dont un livre, Les Jolies Bosses, qu'on peut retrouver sur le site iceberg.fr, un jeu de cette famille, des plaquettes, dont tu nous parleras tout à l'heure. De nombreux parents se questionnent sur le développement du langage chez leur enfant et s'inquiètent de voir apparaître et s'installer des difficultés sans savoir toujours s'il s'agit d'une étape normale, c'est-à-dire attendue, ou d'une difficulté nécessitant un accompagnement spécifique. Léa Elias, dans l'épisode 107 sur le développement du langage chez l'enfant, nous a parlé des différentes étapes de ce développement, de ce par quoi passe l'enfant pour construire son langage. Et il n'est pas rare que les enfants hésitent, butent sur des mots, les répètent en écolalie. Mais s'agit-il d'un bégaiement? Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Alors tout d'abord, Sarah, justement, qu'est-ce que c'est que le bégaiement pour mieux comprendre de quoi on parle?
Alors, le bégaiement... Il fait partie des troubles neurodéveloppementaux, comme on disait dans l'épisode précédent. Et ce qui va souvent alerter, ce sont les signes de lutte avec la parole. Chez le jeune enfant, quand le bégaiement apparaît, c'est ce qu'on va voir. C'est-à-dire que non seulement il va avoir des moments de bégaiement, comme des répétitions qui peuvent être nombreuses, par exemple bonjour, ou alors il va avoir des blocages dans sa parole, par exemple bonjour, là j'ai eu une pause tendue, ou alors il va prolonger des sons, comme bonjour, voilà. Et puis on le disait, il va y avoir toute la lutte autour pour sortir de ce moment de bégaiement. Donc par exemple, l'enfant peut avoir le regard qui fuit, il peut fermer ses yeux, il peut avoir des contractions des muscles du visage, ou même il peut faire un geste de la main, du pied, avancer le tronc ou la tête, pour sortir de ce moment qui est un peu inconfortable, quoi.
Donc il peut engager son corps.
C'est ça, tout à fait. Il peut se mettre à faire des choses aussi avec sa respiration, à prendre de l'air à des moments qui sont inopportuns. Donc c'est souvent ça qui m'en alerte, parce que on se retourne, quoi. On se dit, tiens, il y a quelque chose dans la parole de l'enfant qui est inhabituel. Alors la définition du bégaiement, elle serait incomplète si on ne parlait pas du vécu interne de la personne qui bégait. Alors... Au tout début, le petit enfant qui bégait, il va pas toujours en avoir conscience, quand c'est un enfant de 2 ans, 2 ans et demi, mais il y en a qui en ont conscience assez tôt quand même. Et ça va être tout le vécu du bégaiement, c'est-à-dire la réactivité de l'enfant par rapport à ce bégaiement. Est-ce que ça va générer une frustration? une gêne? Est-ce que ça va le mettre en colère? Est-ce que ça va le rendre triste? Et puis, on va observer aussi s'il met déjà en place des stratégies pour éviter de bégayer, comme parler moins, éviter de parler. Vous avez des enfants qui, par exemple, vont faire un geste au lieu de parler, vont vous pointer un objet ou vous pointer le verre pour dire qu'ils ont soif, par exemple. Donc vraiment, il faut être vigilant à ça, à tout ce vécu-là, à tout ce qu'on peut ressentir quand on bégaye et à l'impact que ça va avoir sur la communication et sur la vie scolaire, familiale. Vous pouvez avoir des enfants qui, à l'école, évitent de prendre la parole aussi. Nous, en tant qu'orthophonistes, on va explorer tout ça. On va aussi, bien sûr, explorer la façon dont les parents le vivent. On va mettre en place ensuite tout un travail.
Du coup, à quel âge, en moyenne, il apparaît ce trouble neurodéveloppemental? Marine nous parlait des premiers signes autour, pour son fils autour de 2 ans et demi. Est-ce que c'est fréquent que ça arrive aussi jeune ou est-ce que ça peut arriver beaucoup plus tard, même apparaître à l'âge adulte?
Le bégaiement le plus fréquent, c'est le bégaiement précoce qui survient entre 2 ans et 5 ans. Et vous pouvez avoir des bégaiements qui sont acquis, mais là, c'est extrêmement rare. Donc, les bégaiements acquis chez l'adulte qui peuvent être d'origine neurologique, par exemple, ou liés à la prise d'un médicament ou d'origine psychologique. Mais c'est souvent une vision qu'on a du bégaiement, que ça fait suite à un traumatisme, etc. Ça, c'est une idée, plutôt une idée reçue, parce qu'en réalité, c'est extrêmement rare d'avoir un bégaiement dit psychogène qui survient à la suite d'un traumatisme psychologique.
Oui, tandis que là, du coup, chez les enfants, on va vraiment pas être justement dans ces situations de conséquences traumatiques, mais vraiment dans la question neurodéveloppementale et du développement.
Oui, oui, parce qu'en fait, à la base, c'est un trouble moteur.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que l'enfant a hérité d'une probabilité plus importante de bégayer, parce que par exemple, la plupart du temps, il y a des antécédents familiaux, ou alors des mutations génétiques qui font que le bégaiement va être transmis génétiquement. Et puis, l'enfant va avoir un fonctionnement cérébral différent. On dit qu'il a un système moteur de sa parole qui est instable. J'ai une amie Jouberton, qui compare ça à une toupie. C'est-à-dire que vous avez ce bégaiement, enfin la parole représentée par la toupie. Et puis, quand il y a un bégaiement, eh bien, il y a différentes choses qui peuvent faire vaciller ce système moteur de la parole. On peut évoquer là les facteurs qui vont agir sur le bégaiement. C'est les facteurs qui sont liés à l'enfant lui-même et puis les facteurs liés à l'environnement. Par exemple, les facteurs qui vont être liés à l'enfant, ça peut être son tempérament. On sait qu'il y a de plus en plus d'études aujourd'hui qui sont faites là-dessus et on sait que les enfants qui ont une moins bonne régulation émotionnelle et une plus grande réactivité émotionnelle vont avoir tendance à bégayer de façon plus sévère et plus durable, tout comme les enfants qui présentent un TDAH, qui ont vraiment du mal à se réguler. Les enfants qui ont également des troubles de la parole et du langage associés vont avoir plus de risques aussi que le bégaiement s'installe. Et puis, tous les facteurs qui vont entraîner une surcharge, comme du stress, des changements dans la vie de tous les jours, tous les événements qui peuvent déclencher comme ça une fatigue ou un stress, vont être des facteurs qui vont jouer. Ce n'est pas la cause initiale, ce sont des déclencheurs.
Ou des facteurs aggravants.
Tout à fait, des facteurs aggravants. Je ne sais pas, par exemple, le confinement a été un facteur aggravant. Voilà, moi j'ai eu énormément de familles qui m'ont appelé en panique parce que l'enfant bégayait beaucoup plus au moment du confinement.
Ou j'imagine la séparation des parents, par exemple.
Oui, voilà, en fait, tous les facteurs
qui peuvent... Mais c'est pas la séparation qui est à l'origine, c'est juste un moment de révélation, de mise en lumière finalement.
C'est ça, c'est-à-dire que ça vient créer à ce moment-là une surcharge sur un système moteur qui était déjà instable chez un enfant qui avait déjà des prédispositions. Mais ce n'est pas l'entrée à l'école, le divorce des parents, la naissance du petit frère ou de la petite sœur qui est en cause dans le bégaiement.
Pour revenir sur cette dimension génétique, parce que Marine nous disait que son mari est bègue, qu'est-ce qu'on sait justement de cette transmission génétique du bégaiement?
Alors on sait que c'est un facteur aujourd'hui qui est démontré, il n'y a pas de doute là-dessus. Par exemple, chez plus de 70% des personnes qui consultent, il y a des antécédents familiaux identifiés. Je dis bien identifiés parce que on peut très bien avoir quelqu'un dans sa famille qui présente un bégaiement et ce bégaiement peut être caché, en parlant le moins possible, eh bien, tata Jacqueline, elle a peut-être un bégaiement, et on ne le sait pas, en fait. C'est peut-être pour ça qu'à table, elle ne parle pas beaucoup. 70%, après, chez les jumeaux homozygotes, on est à 85% de bégaiement chez les deux enfants.
Lorsqu'il y a déjà des antécédents familiaux et qu'il y a des jumeaux.
Chez les jumeaux homozygotes, s'il y en a un qui bégaye, l'autre a 85% de chances de bégayer aussi. Et puis, on a isolé plusieurs gènes, c'est-à-dire que c'est une origine qui est polygénique. Il y a 4 gènes qui ont été isolés pour le moment.
Et puis, Marine nous disait aussi dans le premier épisode que ça touche plus les garçons que les filles. D'ailleurs, sa fille aînée n'a présenté aucune difficulté dans le développement du langage et ne présente pas de bégaiement. Est-ce que ça aussi, ça a été identifié scientifiquement?
Ouais. Alors, ça touche plus les garçons que les filles. Quand ils sont tout petits, au moment de l'émergence du bégaiement, on a à peu près une fille pour 2 garçons. Et puis, avec les années, l'écart se creuse. C'est-à-dire que les filles vont plus récupérer, vont avoir une récupération spontanée plus importante que les garçons. Et donc, ensuite, on est plutôt à une fille pour 4 ou 5 garçons.
Et comment on l'explique, ça ?
Alors ça, on n'a pas encore tout à fait compris pourquoi. On sait qu'il y a des origines génétiques et hormonales, mais les recherches, elles sont en cours à ce niveau-là.
Du coup, d'un point de vue statistique, combien de personnes sont atteintes de bégaiement et combien d'enfants en France, à peu près en moyenne?
On a à peu près 8% des enfants qui vont bégayer à un moment de leur enfance. Et puis, ensuite, dans la population générale, on est entre 1 et 2%, selon les études, de personnes qui bégayent. Mais encore une fois, enfin, c'est difficile d'évaluer vraiment parce que dans ces études épidémiologiques, on ne tient pas compte des bégaiements masqués. Donc, on serait sans doute plus proche des 2% que des 1%. C'est toujours à prendre avec des pincettes.
On parle aussi de la diffluence. Alors, qu'est-ce que c'est la diffluence et quelle est la différence du coup avec le bégaiement ?
Dans le bégaiement, il y a des disfluences. En réalité, les disfluences, c'est juste le fait que la parole ne s'écoule pas parfaitement. Mais en soi, des disfluences, on en a tous. Moi, j'en ai eu un certain nombre depuis le début. Je peux me reprendre, je peux démarrer une phrase et réviser ma phrase. Je peux avoir des hésitations, je peux bafouiller, voilà. Et elles font partie de la parole normale, les disfluences, parce que bah, la parole, on la construit au fur et à mesure qu'on parle. C'est pas comme l'écrit où on peut gommer, revenir en arrière. Là, forcément, il y a des moments où on fait un petit brouillon et on revient en arrière. Et chez les enfants, ces disfluences, elles sont en plus grand nombre puisqu'ils sont en train de construire leur langage. Et il y a des disfluences comme on en a ici, avec des disfluences qui sont normales. Dans le bégaiement, ces disfluences, elles sont présentes avec de la tension. Donc c'est ça la différence entre les disfluences normales et les disfluences de type bégaiement, c'est que les disfluences normales, elles font partie de la construction du discours parce qu'on cherche ses mots, parce qu'on élabore sa phrase. C'est le petit enfant qui vous dit eh ben, tu sais, eh ben, moi. Et en fait, il est en train de chercher ses mots, il répète, voilà, comme ça, des morceaux de phrases, mais c'est pas inquiétant, il garde le contact, il reste dans la communication. En revanche, dans les disfluences de type bégaiement, là, vous sentez une lutte. L'enfant, il a le mot, il sait ce qu'il veut dire à ce moment-là, mais le mot ne veut pas sortir.
Oui, c'est là que va émerger la frustration dont nous parlait Marine, qu'elle a pu observer chez son fils.
C'est ça.
Pour revenir sur la question de la durée, dans le premier épisode, tu nous as bien expliqué qu'aujourd'hui, on n'était plus dans cette vision qu'on va faire disparaître le bégaiement, ce qui laisse cette idée voilà, que le bégaiement, et c'est un trouble neurodéveloppemental, donc c'est quelque chose qui va être présent tout au long de la vie, même s'il peut évoluer et puis peut-être avoir des gradations différentes au cours de la vie. Est-ce que tu peux nous réexpliquer ces questions-là ?
Oui, en fait, il y a autant de bégaiement que de personnes qui bégaient. On dit que c'est un trouble qui est idiosyncrasique. Voilà. Parce qu'en réalité, vous voyez l'image de l'iceberg avec sa partie visible, sa partie cachée. Eh bien, le bégaiement, c'est un peu pareil. Il y a une partie audible, visible aussi, et puis une partie qui correspond au vécu interne et à l'impact du bégaiement sur la personne. Eh bien, vous avez des personnes qui vont avoir une partie visible importante, on appelle ça un bégaiement ouvert, et une partie cachée qui est vraiment très peu développée. Et puis des personnes pour qui les deux sont à peu près équivalents, c'est-à-dire des personnes que vous entendez bégayer et qui développent, voilà, au niveau de leur vécu, des sentiments, une réactivité négative par rapport au bégaiement. Et puis, à l'opposé, vous allez avoir des personnes qui ont un bégaiement masqué, un bégaiement caché, avec la partie de l'iceberg qui dépasse de l'eau, qui est vraiment minuscule, et en revanche, un vécu interne qui est important. Donc, on a vraiment des différences au niveau du vécu du bégaiement, du côté ouvert ou couvert du bégaiement. Et puis après, y a des bégaiements qui vont durer, d'autres qui vont moins durer. Un peu comme dans l'autisme, on parle de plus en plus d'un spectre par rapport au bégaiement.
Tu nous disais tout à l'heure que chez les 8% d'enfants, il y en avait, je crois, 70% où le bégaiement disparaissait, en tout cas n'était pas durable. Ça signe bien qu'il y a quelque chose qui peut être à la fois transitoire ou s'installer dans le temps.
Tout à fait, oui, oui. Mais on avait tendance auparavant à rassurer les parents en disant « mais vous inquiétez pas, le bégaiement, c'est toujours normal, quoi. C'est une période. » Alors, il faut se méfier de ça aussi parce que ça veut dire banaliser quelque chose qui peut être impactant. Donc, l'idée, c'est surtout de voir est-ce que ça gêne quelqu'un. Voilà, c'est surtout ça. Moi, les parents qui arrivent, je dis, mais est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que ça vient perturber votre communication? Est-ce que l'enfant montre une réactivité importante à son bégaiement? Et c'est là qu'on va agir, en fait.
Oui, tout va dépendre du vécu. Quelles sont, Sarah, les causes du bégaiement?
Alors ça, on l'a évoqué, donc il y a les facteurs génétiques et neurologiques qui prédisposent au bégaiement. Donc l'enfant hérite d'un risque, d'une probabilité plus importante de bégayer. Il va avoir, au niveau de son cerveau, on sait qu'il y a des différences vraiment anatomiques et physiologiques au niveau du fonctionnement du cerveau. Et puis là-dessus, il y a les facteurs qui vont être plus aggravants et qui vont être des facteurs de risque de persistance du bégaiement. Les facteurs liés à l'enfant lui-même, donc on a parlé du tempérament, hein, le fait que l'enfant ait une réactivité émotionnelle élevée et surtout qu'il ait du mal à réguler ses émotions, parce qu'en soi, la réactivité, au cours de la vie, elle va pas tellement varier, mais c'est surtout la façon dont on va arriver à réguler après ses émotions. Les enfants qui ont un TDAH vont avoir tendance à bégayer plus sévèrement, plus durablement. Il va y avoir tout ce qui est trouble associé, parce que les TND s'associent souvent entre eux, et donc on peut avoir d'autres troubles de la communication, d'autres troubles neurodéveloppementaux associés, et tout ça va effectivement constituer un risque.
Tel que des troubles 10, par exemple?
Alors, ça peut être des troubles développementaux du langage, par exemple à l'oral, un enfant qui a des difficultés autant à comprendre qu'à s'exprimer. Ça va être tous les troubles de la production de la parole. Hein. Après, il va y avoir les TSA, troubles du spectre autistique, et dans les facteurs, on va avoir, dans ce qui est environnemental, on a vu l'action que ça pouvait avoir sur le bégaiement, mais on va aussi avoir toutes les réactions de l'entourage. Si on réagit en se moquant ou en reprochant à l'enfant de bégayer, par exemple en lui disant « arrête de parler comme ça, arrête de bégayer », il y a des parents qui sont vraiment démunis et qui trouvent uniquement cette réponse-là, par exemple. Ou qui ont essayé plein de choses et puis au bout d'un moment, eux-mêmes, ils sont tellement affectés par le bégaiement que ce genre de phrase, ça peut échapper, quoi. C'est des phrases qui vont avoir tendance à aggraver le bégaiement dans le sens où l'enfant ne fait pas exprès et ne peut pas agir comme ça volontairement sur sa parole. Et puis là, ça va venir agir sur la façon dont l'enfant vit son bégaiement. Évidemment, ça ne va pas l'aider à être en confiance avec sa parole.
Justement, dans les enfants que tu accompagnes, globalement, comment ils vivent cette situation?
Là, j'ai vraiment tous les vécus possibles parmi mes patients. En fait, on peut avoir des parents très affectés et un enfant qui ne l'est pas. Donc dans ce cas, on va travailler plutôt avec les parents. Et puis, on peut avoir des enfants qui, effectivement, sont impactés dans leur communication, qui vont être en économie de mots, qui réagissent en étant très sensibles par rapport au bégaiement. Tout à l'heure, Marine en parlait avec son fils. C'est vrai que au début, parler du bégaiement, mettre des mots dessus, jouer avec sa parole et même faire exprès de faire des petits bégaiements, ça peut créer un inconfort de faire ça. Hein. Et puis, avec le temps, voilà, on peut petit à petit réduire cette sensibilité au bégaiement. Et je pense que c'est important pour les parents comme pour l'enfant.
Quand Marine nous parlait de son fils, et des inquiétudes d'ailleurs de son mari, du papa de son fils, par rapport au fait qu'il puisse être moqué par les autres, humilié, etc. Est-ce que ces sentiments de gêne, de honte, est-ce que c'est des choses qui sont présentes ?
En réalité, ce qu'on observe chez les tout-petits, c'est que les réactions des autres au bégaiement, ça va être au départ... Par exemple, l'enfant qui bégait, et puis bon, les copains, ils décrochent un peu. Voilà, ils vont faire autre chose, ils n'écoutent plus, quoi. Et puis, avec le temps, en arrivant en primaire, c'est là que peuvent démarrer les réactions un petit peu plus hostiles de moquerie. Souvent, les affects négatifs liés au bégaiement chez un enfant qui bégait, ils sont liés à la fois, bien sûr, à l'inconfort dû au bégaiement, c'est-à-dire, bah oui, ça fatigue de bégayer, c'est pas quelque chose de plaisant en soi à l'intérieur. Et puis, ça va être lié aussi aux réactions des autres. Et plus il va vivre d'expériences négatives par rapport à sa parole, et plus lui, il va développer, comme ça, une auto-stigmatisation, finalement. Donc, chez les enfants d'âge scolaire, donc à partir de 6 ans, on observe déjà une anxiété sociale qui peut se mettre en place chez un quart des enfants qui bégaient.
Oui, c'est quand même important.
Oui, et chez les adultes, c'est plutôt 1 sur 2. Donc nous, on va essayer au maximum, justement dans l'action qu'on a auprès des parents et de l'enfant, de faire en sorte que ce soit vécu le mieux possible et de donner à l'enfant des billes pour justement ne pas vivre ces expériences négative, ou en tout cas s'il en vit, de pouvoir y réagir du mieux possible. Et quand un parent arrive en nous disant, on consulte parce que bon, là ça va, il est en maternelle, ça se passe plutôt bien, mais on a un peu peur pour plus tard, on se dit les enfants entre eux, hein, ils sont pas toujours sympas, c'est que faire maintenant justement pour que les parents se sentent le plus compétents possible et que l'enfant se sente le plus confiant possible en sa communication pour construire comme ça une estime de soi, une confiance en soi qui va permettre plus tard de répondre face à ce genre de situation.
Oui, parce que par rapport à ce que tu disais juste avant, j'étais en train de me dire l'impact que ça pouvait avoir sur l'image de soi, la confiance en soi. Donc là, d'où l'importance aussi d'agir précocement, tôt au moment de l'apparition des difficultés pour justement que cette mauvaise estime de soi ne s'installe et ne se développe.
Exactement. Et vraiment, enfin, notre travail avec les parents, il tourne beaucoup autour de ça. Hein. D'aider les parents à mettre en place des choses qui vont rendre l'enfant le plus confiant possible dans sa communication. Et être à l'aise avec le fait d'avoir un bégaiement. Parce que si je suis à l'aise avec le fait de bégayer, en soi, je saurais mieux répondre aux réactions en face. Et au lieu de fuir le bégaiement, me taire, regarder ailleurs et ne pas dire ce que j'aurais envie de dire, si je regarde l'autre avec un sourire en bégayant comme ça ouvertement, eh bien l'autre, il va pas y voir un problème en fait, parce que si moi je suis pas gênée de bégayer, l'autre, il va être moins gêné aussi. Hein. La réaction de la personne en face, elle est très souvent le reflet de la gêne de la personne qui bégaye elle-même.
Oui, là, à nouveau, j'entends l'importance de comment le parent le vit pour ne pas projeter ça sur son enfant. Et que, finalement, dans ce que tu nous disais, très petit, alors, il peut y avoir la dimension de la lutte et des frustrations qui vont être difficiles pour les enfants, mais cette dimension du regard social ou extérieur est vraiment apportée par les parents.
Oui.
Justement, dans le vécu des parents, j'imagine dans les parents que tu dois accompagner, cette question peut-être de la culpabilité, est-ce que c'est quelque chose que tu observes et qui peut être présente ?
Oui, alors la culpabilité, elle est souvent présente. Ça peut être le parent qui se dit « il s'est mis à bégayer après que je l'ai grondé », par exemple. C'était le déclencheur, mais en soi, il aurait peut-être bégayer plus tard, à un autre moment, ça aurait pu être un autre déclencheur.
Oui, cette idée que le parent aurait provoqué l'apparition du bégaiement.
Oui, c'est ça. Et non, on sait qu'en fait, même si on était assez tordu pour vouloir déclencher un bégaiement chez son enfant, on n'en serait pas capable, en fait. C'est pas quelque chose qu'on peut provoquer. On a vu, il y a une multitude de facteurs en jeu. Et si c'était pas ce déclencheur-là, ça en aurait été probablement un autre. Les premières séances, et même le bilan, consistent en partie à réduire cette culpabilité chez les parents en informant sur les causes du bégaiement. Et puis, cette culpabilité, elle peut aussi naître du fait que le parent lui-même bégaye et qu'il a transmis quelque part génétiquement son bégaiement.
Est-ce qu'il pourrait y avoir l'apparition d'un bégaiement par imitation ?
Alors ça, c'est souvent une question, effectivement, aussi. On sait que non, le bégaiement ne peut pas survenir par imitation. Mais l'interprétation que les parents en ont, c'est souvent, il s'est mis à faire ça, il s'est mis à bégayer, à faire ça, un peu comme s'il faisait exprès, en imitant sa sœur, par exemple, sa sœur qui bégayait. Voilà, j'ai imité un copain en classe qui bégayait, et depuis, j'ai un bégaiement. Non, alors c'est pas contagieux et on peut pas l'attraper comme ça par imitation. Encore une fois, voilà, il faut avoir tous les facteurs qu'on a vus qui prédisposent à bégayer. Et il y a même une étude qui avait été faite comme ça chez les enfants qui étaient adoptés par des couples où il y avait un parent qui bégayait. Et on a vu que ces enfants qui avaient été adoptés ne se mettaient pas plus à bégayer que les autres.
Pas d'effet d'imitation.
Non.
Il y a, du coup, ça m'évoque une autre peut-être idée reçue ou fausse croyance autour de la question du bégaiement, que le bégaiement serait dû au fait que les pensées de l'enfant iraient plus vite que sa capacité à le mettre en mots.
Oui, ça c'est aussi une idée qui est assez répandue, mais en réalité, on a tous une pensée qui va plus vite que notre système moteur de parole. Ça, voilà, c'est le cas de tout le monde. Ça a été beaucoup évoqué en ce qui concerne les enfants qui avaient un HPI, par exemple, parce qu'il y avait l'idée qu'ils avaient une pensée en arborescence et que ça partait un petit peu dans tous les sens, etc. Aujourd'hui, on sait que ça, c'est un mythe, donc on ne peut pas expliquer le bégaiement par ça. En revanche, ce qu'on peut observer, c'est des enfants, par exemple chez les enfants qui ont un TDAH, des enfants qui vont avoir une impulsivité, qui vont avoir envie de raconter beaucoup, beaucoup de choses, qui sont même parfois logoréiques et qu'on a du mal à stopper. Et comme ils veulent aller vite, en plus, là, ça va pouvoir générer du bégaiement. Donc, c'est des enfants avec qui on va cadrer beaucoup plus l'échange, par exemple, à qui il va falloir régulièrement envoyer un accusé de réception, ah oui, en reformulant ce qu'il vient de dire, pour vraiment arriver à cadrer, parce que si on le laisse comme ça dans son discours, sans laisser place à l'interlocuteur, ça ne lui apprend pas, finalement, au niveau de la communication, les règles de communication, d'écoute. C'est pas forcément l'aider que de rester à l'écouter et lutter comme ça avec sa parole, à parler sans fin.
Il y a une autre idée qui me vient, c'est est-ce qu'il y a un lien avec l'intelligence ? Si tu parlais des HPI, par exemple.
Ça non plus, ça n'a pas du tout été avéré. Donc non, pas de lien entre l'intelligence et le bégaiement. Vous pouvez avoir des enfants qui ont un QI de 140 et des enfants, par exemple, avec des syndromes. On sait que chez les enfants trisomiques, il y a très souvent un bégaiement associé.
Alors, du coup, qu'est-ce que peuvent faire les parents pour accompagner au mieux leurs enfants ? Alors, tout d'abord, quand est-ce qu'on intervient et qui on va voir ?
On intervient quand ça commence à gêner quelqu'un, soit l'enfant, soit les parents, quand il y a une inquiétude. Voilà, je dirais que c'est le critère numéro un. L'enfant bégaye, les parents sont inquiets ou l'enfant est impacté dans sa communication. Et on va voir d'abord son médecin, qui va pouvoir prescrire un bilan orthophonique.
C'est le pédiatre qui prescrit
le
bilan ?
Ça peut être un pédiatre ou un médecin généraliste. Oui.
Ce bilan, en quoi il consiste ? Comment il se passe ? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
Alors, je vais parler de l'enfant, parce que là, on est là pour ça. On reçoit, comme disait Marine, les parents ensemble avec l'enfant. Alors après, les orthophonistes peuvent avoir des manières différentes de procéder.
Bien sûr.
Certaines vont recevoir d'abord l'enfant pour faire connaissance et puis ensuite vont avoir l'entretien avec les parents pour toute l'anamnèse. Et puis, ça peut être l'inverse. Donc, je ne vais pas parler au nom de toutes les orthophonistes, mais moi, j'ai tendance à plutôt recevoir l'enfant avec ses parents pour un premier entretien et effectivement à proposer ensuite aux parents de remplir des questionnaires pendant que moi je passe un petit moment avec l'enfant. Voilà. Et puis, après, ça dépend. Si l'enfant semble avoir des troubles associés, on peut faire un bilan de langage ensuite, après le bilan de bégaiement, pour voir quel est le niveau de langage de l'enfant, s'il a des troubles autant expressifs que réceptifs.
Le bilan chez l'enfant sera différent du bilan chez l'adulte ?
Oui, parce qu'en soi, l'adulte, il vient seul déjà. il est rare qu'on fasse venir les parents. Et ça ne va pas être tout à fait la même démarche.
Ce bilan, il se fait auprès d'un ou d'une orthophoniste. Ensuite, Marie témoignait qu'il y avait une note à l'issue de ce bilan pour évaluer finalement la sévérité ou non du bégaiement, est-ce que c'est bien
alors,
ça, si j'ai bien
réalité,
compris ?
En réalité, le bilan, enfin cette évaluation-là sur l'échelle de sévérité, c'est un des éléments du bilan. C'est plutôt pour évaluer le niveau de sévérité du bégaiement selon les parents. C'est pour voir aussi s'ils ont la même vision du niveau de bégaiement audible. Et puis, on peut le confronter à ce que nous, on a entendu en séance ou en bilan, mais souvent, c'est pas très représentatif parce que l'enfant, il va quand même avoir un langage un peu moins spontané et parler un peu moins en notre présence qu'à la maison. Donc, on va plutôt se fier à ce que les parents nous rapportent. C'est vraiment pour avoir une idée de la partie audible du bégaiement. Mais encore une fois, c'est l'un des éléments. Et on va aussi se fier à plein d'autres éléments qui sont plus en lien avec l'impact du bégaiement sur l'enfant, l'impact sur la vie familiale, la façon dont les parents se sentent outillés ou non par rapport au bégaiement de leur enfant.
Et du coup, quelle prise en charge peut être proposée à l'enfant et aux parents ?
Alors, ça dépendra de l'âge de l'enfant. Souvent, quand c'est un jeune enfant, on démarre par des thérapies plutôt indirectes, c'est-à-dire qu'on va agir avec les parents sur l'environnement de l'enfant et sur les interactions familiales pour avoir par ricochet un effet sur le bégaiement de l'enfant. Ça, c'est donc les techniques qui sont indirectes et c'est souvent ce qu'on propose aux plus jeunes. Et puis, les programmes qui sont plus directs vont intervenir, comme leur nom l'indique, plus directement sur la parole de l'enfant. Et alors là, on va vraiment jouer avec sa parole, on va essayer des choses, on va essayer de sentir comment on fait pour bégayer, comment on fait pour lutter. Je sens ça dans ma gorge, dans ma bouche, dans ma langue, dans mes lèvres. Et on va essayer de réduire la lutte et de se désensibiliser par ce moyen-là. Il y a des méthodes directes comme le programme Lidcombe qui sont vraiment des techniques de renforcement positif sur comment l'enfant a fait pour avoir une parole moins en lutte. Moi, j'ai tendance à ne pas forcément dire que c'était une belle parole quand l'enfant n'a pas bégayé parce que ça induirait le fait que quand il bégait, c'est moche. Donc, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, t'as senti là, t'aurais pu bloquer et puis t'as fait comme ça, t'as fait tout doux. T'as senti comme c'était tout doux, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment le programme Lidcombe. Et puis voilà, il y en a d'autres aussi. Mais globalement, ça consiste à réduire la lutte avec la parole.
Oui, et qui dit réduire la lutte, à nouveau, ne veut pas dire agir sur l'affluence ou sur... il peut continuer d'avoir du bégaiement, mais que ça soit, comme tu dis, plus doux et mieux vécu.
Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, il faut toujours veiller à ne pas induire cette notion chez l'enfant que bégayer, ce serait mal. C'est ça qui pourrait faire que l'enfant a des réactions, des attitudes réactionnelles, mutisme ou... c'est un peu exagéré, mais en tout cas, de réduction de sa production verbale, de frustration, même de colère, etc.
Je sais que tu proposes des prises en charge individuelles ou en groupe. Est-ce que pour les enfants, il y a des prises en charge en groupe ?
Plutôt chez les plus grands.
On fait rarement chez les adolescents,
de groupes
d'enfants
de 4 ans, ouais. Par exemple, qui bégaient. C'est un peu sport. j'ai tenté, je crois, avec des enfants de 5-6 ans. Et puis, non, c'est vrai que pour ma part, je fais plutôt des groupes à partir de l'âge de 8-9 ans.
Et en groupe, comment ça va se passer et quels vont être les objectifs ?
Alors, en groupe, si vous recevez des enfants qui ont 8-9 ans, c'est un bégaiement qui est persistant. Donc ça va vraiment consister à vivre le mieux possible avec ce bégaiement, à s'affirmer aussi, parce que dans les groupes, on en profite pour faire beaucoup de jeux de rôle, de mise en situation.
Développer sa confiance en soi.
C'est ça, développer sa confiance, être un communicateur confiant. On travaille tous les paramètres de la communication. Hein. Enfin, en réalité, la fluidité, c'est vraiment l'un des paramètres, mais qui compte pour très peu dans la communication. Donc, déjà, avec les enfants, on développe la posture, le regard, la voix, l'expressivité. On travaille sur tout ce qui est verbal et non-verbal. Et puis, on évoque évidemment les moqueries, comment réagir quand quelqu'un se moque, pour faire en sorte que, même s'ils n'ont pas vécu de moquerie, ils aient en eux les moyens d'y répondre. Et qu'ils soient confiants et qu'ils ne rasent pas les murs. Comme ça, on n'aura pas envie de se moquer d'eux.
Bien sûr. Quels seraient les quelques conseils primordiaux que tu aurais envie de donner aux parents dans leur façon de réagir face à leur enfant qui bégaye ? Et puis peut-être, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire ?
Moi, je trouve que les parents, eux-mêmes, interviennent. Ils font des choses. Et dans ce qu'ils font, il y a forcément des choses bien. C'est juste arriver à trouver dans ce qu'ils font ce qui aide leur enfant. Alors, ça peut être de se mettre à hauteur d'yeux, de s'accroupir, s'asseoir, enfin, en tout cas se mettre à hauteur du regard de l'enfant, lui faire une petite caresse sur l'épaule pour lui montrer qu'on l'écoute. Ça peut être tout simplement d'écouter ce qu'il raconte et de reformuler « Ah oui, ah donc tu as fait ça, d'accord, ah elle t'a dit ça » et de reprendre ce qu'il vient de dire pour montrer son intérêt pour ce que dit l'enfant, tout simplement qu'il se sente écouté. Et puis, quand on intervient, nous, de le faire de la façon dont on aimerait que l'enfant parle. Parce que souvent, on va plutôt donner des conseils à l'enfant sur l'exécution de sa parole, comme « parle doucement, respire, fais comme ci ou comme ça, répète bien, etc. » Et ça, malheureusement, ça va souvent créer un effort supplémentaire de la part de l'enfant pour bien parler. Il va se mettre à prendre des inspirations à des moments pas du tout opportuns, donc il vaut mieux éviter. Mais en revanche, on peut prendre un débit, faire des pauses qu'on aimerait que l'enfant fasse. Donc, en face, je ne vais pas non plus allonger comme ça, ce serait bizarre. Mais faire davantage de pauses, ne pas mitrailler de questions, attendre la réponse de l'enfant avant de reposer une autre question. Souvent, c'est vrai que ça va vite. Hein. Puis il suffit qu'il y ait des frères et sœurs, les tours de parole, ça s'enchaîne et puis ça se chevauche même. Donc, d'instaurer plus de pauses, tout ce qui, finalement, va réduire la pression temporelle pour l'enfant. Donc
ça, oui, c'est que vraiment le silence n'est pas forcément à combler, mais va permettre à l'enfant aussi de s'installer, d'une certaine manière, dans sa parole.
Et puis d'avoir des petits temps privilégiés. Ça, quel que soit le programme qu'on propose en orthophonie pour les jeunes enfants qui bégaient, vous retrouverez toujours le même facteur, c'est le temps spécial. Il y a toujours ce temps de 10 minutes, on va dire, chaque jour, consacré à l'enfant. Et en réalité, il semble que ce soit ça qui soit réellement efficace dans tous ces programmes. C'est juste le temps spécial qu'on passe avec l'enfant. Un temps où on n'est pas dans tester ce que connaît l'enfant, prendre un livre et lui dire « c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça hein ?» D'accord ? Mais au contraire, où on partage, où soi-même en tant qu'adulte, on commente ce qu'on voit sur les images, en faisant ces fameuses pauses, justement. Voilà, en y allant tranquille, sans être dans questionner l'enfant, tester ses connaissances, son vocabulaire.
Oui, Marine nous parlait de ce bénéfice secondaire très important pour son fils. Oui. Voilà, que le fait qu'il y ait ce temps privilégié, que c'était quelque chose qu'il aimait beaucoup et qui était un temps aussi chouette partagé avec son enfant.
Oui, souvent les enfants le réclament d'ailleurs, si les parents oublient.
Sarah, où est-ce qu'on peut trouver l'information pertinente sur cette question du bégaiement ?
Alors, vous avez l'association Parole Bégaiement. Le site, c'est bégaiement.org. Et ce site, il répertorie quand même beaucoup de choses. Ça peut être à la fois des plaquettes informatives destinées aux parents, aux enseignants, aux personnes qui bégaient, aux recruteurs, etc. Vous pouvez avoir des informations sur le bégaiement, des vidéos. Des orthophonistes qui ont enregistré des vidéos de conseils et même de démonstrations de techniques. Et puis, on peut aussi accéder à une liste de délégués de l'APB, donc de l'association Parole Bégaiement, pour trouver un ou une orthophoniste formée au bégaiement. Donc l'APB peut mettre les parents en lien avec des orthophonistes formés.
Oui, donc il y a une espèce d'annuaire interne.
C'est ça.
Donc ça peut être un bon moyen de trouver toutes les orthophonistes. Et Léa Elias nous l'avait dit, ne sont pas formées à cette question du bégaiement. Chacune peut avoir sa spécificité, sa spécialité. On parlait tout à l'heure des différents outils que toi tu as créés. Donc il y a le livre Les Jolies Bosses, mais il y a aussi un jeu de cette famille, voilà, des plaquettes. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et puis à quoi ils servent ces différents outils ?
Alors oui, le jeu de cette famille, qui est d'ailleurs un jeu de cette famille avec une prolongation de vie, il est destiné aux enfants d'âge scolaire, donc à partir de 6 ans. C'est vraiment un outil pour devenir un peu expert de son bégaiement. Donc, il y a des familles qui consistent à apprendre des choses sur le bégaiement, des vrais ou faux. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on appelle éducation thérapeutique. Et puis, des défis, des jeux de rôle aussi pour apprendre à répondre, par exemple, à quelqu'un qui ferait une remarque sur le bégaiement. Donc, voilà, il y a pas mal de choses. Et puis, récemment, effectivement, on a sorti avec Pierre Gay le livre Les Jolies Bosses qui s'adresse à des enfants un petit peu plus jeunes, quoique les enfants de 6-7 ans peuvent tout à fait le lire, mais en tout cas ça démarre un petit peu plus jeune, dès 3 ans hein, si l'enfant a conscience de son bégaiement. Donc ce petit livre, il y a une partie qui est consacrée à l'enfant et ses parents ou son entourage, hein, quel qu'il soit, ça peut être aussi son orthophoniste, mais en tout cas une première partie qui va être une partie plutôt dédramatisation du bégaiement, déculpabilisation et désensibilisation, dans le sens où l'enfant va être amené à jouer avec sa parole, mais avec l'adulte. Et l'adulte aussi va se désensibiliser en jouant avec sa parole. Et puis, il y a une deuxième partie dans le livre qui reprend les conseils pour les parents, pour l'entourage des enfants qui bégaient. Donc voilà, ça, ce sont les deux supports qui sont sortis. Et bientôt, un nouveau support qui portera sur les moqueries, justement, et les réparties pour s'entraîner à avoir de la répartie.
Est-ce qu'il aura une forme particulière, ce support ?
Ce sera le même support, ce sera un jeu de cartes.
D'accord.
Et de la même taille que le jeu de cette famille. Vraiment, l'idée, en tout cas, pour moi, c'était de faire des supports qui soient simples d'utilisation, qu'on puisse emmener partout, en colo, chez les grands-parents, etc. Hop, on glisse ça dans le sac parce que c'est un petit pochon avec des cartes. Et surtout, qu'ils soient accessibles aussi financièrement, à la fois aux familles et aux orthophonistes. Parce que souvent, nous, on a du matériel spécialisé qui est très coûteux, qui reste dans le cabinet de l'orthophoniste. Et puis, de temps en temps, éventuellement, on peut prêter un jeu à une famille, mais on peut pas le faire tout le temps. Et puis, c'est souvent des jeux avec des plateaux difficiles à mettre en place. Enfin, c'est pas très écologique. Et donc là, l'idée, c'était vraiment de faire du matériel qui entre dans les foyers et qui puisse permettre à l'enfant aussi de faire l'éducation thérapeutique de ses parents, de ses grands-parents, de la nounou, enfin de tout le monde finalement. Tous ceux qu'on ne va jamais recevoir dans nos cabinets. Hein. Voilà.
Super, merci beaucoup Sarah. Et puis il y a aussi ton compte Instagram, sarah.ortho, voilà, sur lequel tu diffuses énormément d'informations. Justement, tu fais beaucoup de psychoéducation autour de la question du bégaiement.
Les supports, en revanche, sont disponibles sur le site iceberg.fr. Ça s'écrit comme un iceberg, mais sans le R.
Je recommande souvent des lectures à mes patients. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous recommander en lecture ou autre ?
Alors, il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Je parle comme une rivière » de Jordan Scott et Sidney Smith. Et en fait, alors, il est merveilleusement illustré. Ça raconte l'histoire vraie de Jordan Scott qui lui-même a un bégaiement et qui le vivait plutôt mal quand il était jeune. Et son père, un jour où c'était particulièrement difficile, l'emmène à la rivière et lui dit « Tu vois, tu parles comme une rivière. » Parfois, la rivière, elle s'écoule tranquillement et puis par moments, elle tourbillonne, elle éclabousse, etc. Et finalement, il retourne en classe et puis il décide, là où avant, il n'osait pas parler devant sa classe, il décide de parler, mais comme une rivière. Voilà.
Et je confirme, le livre est très beau parce que tu l'as sous les yeux, les illustrations sont magnifiques. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais envie de nous recommander ?
Un autre livre pour les parents qui s'appelle « Aider mon enfant à parler et communiquer ». de Véronique Aumont-Boucan et Elisabeth Vincent, qui a été réédité récemment. Donc là, il y a vraiment plein de fiches conseils pour les parents. Et puis, les podcasts qui portent spécifiquement sur le bégaiement. Vous avez un podcast québécois qui s'appelle « Je suis un podcast ». Où là, alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'épisodes qui sont peut-être un peu plus sur l'adulte, mais quand même, en tant que parent, on peut aussi y trouver des ressources. Et un autre podcast qui s'appelle « Noir et bègue », et qui est un podcast français.
Super, merci beaucoup Sarah. Je rappelle donc Sarah Hervé que tu es orthophoniste spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui bégaient et qu'on peut te retrouver sur ton compte Instagram @sarah.ortho. Un immense merci pour tous tes éclairages et tous tes conseils.
Merci à toi.
Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter, et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre « Désir d'enfant » aux éditions Solar est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com